Bonjour Bruno, on est vraiment très content que tu aies accepté de participer à cette interview de la fête 3C et de l'ILCB. Et comme tu le sais peut-être, cette interview elle est organisée autour de trois grands thèmes. Et donc on va commencer par le premier qui a trait à ton parcours scientifique, un peu les aspects personnels, c'est-à-dire ce qui nous intéresserait de savoir. C'est comment tu en es arrivé à délimiter ton thème de recherche, comment tu l'as développé et peut-être aussi quelles sont les personnes qui ont joué un rôle fondamental dans ta carrière.
Merci de m'avoir invité, tout d'abord. Et alors mon parcours personnel, en fait, il est composé de, on va dire, trois grandes étapes. À la base, j'avais plutôt une formation de matheux, et puis après un bac en maths, justement, j'avais aussi une passion pour la biologie, et j'ai décidé de tenter ma chance en médecine, et j'ai très rapidement déchanté, parce que la première année de médecine est juste un repoussoir aux gens qui cherchent à comprendre les choses. Et donc j'ai fait un parcours de biologie très classique avec qui s'est terminé par une maîtrise. Et à l'issue de cette maîtrise, j'avais le choix entre deux voies complètement différentes. C'était l'une l'océanographie et l'autre les neurosciences qu'on appelait à l'époque la psychophysiologie. Et il se trouve que donc, j'ai eu comme professeur en psychophysiologie Jacques Paillard, et ça a été un élément déterminant de mon choix qui m'a conduit à ensuite prospecter pour faire un DEA en psychophysiologie, neurosciences et sciences du comportement, plus exactement. Et ce qui m'a amené à commencer à m'intéresser au comportement animal. Et ce qui m'intéressait de comprendre dans le comportement animal, c'était les processus qui régissent la genèse du comportement. C'était pas simplement c'était pas de l'éthologisme. L'éthologie m'intéressait pas en soi. C'est pas un aspect purement descriptif. C'était un aspect presque mécanistique. Je voulais essayer de comprendre qu'est-ce qui guide la fabrication du comportement par l'animal. Alors là, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur quelqu'un qui avait une vision très originale, c'est Catherine Tinus-Blanc, qui a été par la suite ma directrice de thèse. Originale en ce sens qu'il y avait peu de présupposés dans son approche. Elle avait une formation de psychologue, de psychologie cognitive, mais elle avait été très influencée également par le courant dominant de l'époque pour l'explication du comportement animal, c'est-à-dire le courant behavioriste. Donc, et dans le labo, d'ailleurs, il y avait des gens qui étaient partisans du courant behavioriste et des gens qui défendaient l'idée que l'animal pouvait éventuellement mettre en place des représentations des événements, et en particulier des représentations de l'environnement, de l'espace, qui est le thème sur lequel j'ai fait ma thèse, à savoir essayer de comprendre comment le modèle que j'utilisais à l'époque, était le chat, pouvait apprendre à s'orienter dans son environnement. Donc j'ai passé ma thèse. Et...
D'accord, mais attends, juste une petite question. Donc dans une optique plutôt behavioriste ou dans une optique
alors plutôt... la caractéristique de l'approche de Catherine Tinus-Blanc était de dire que l'animal peut aussi bien utiliser des comportements reposant sur des associations stimulus-réponse, behavioristes, que des comportements reposant sur une représentation de l'environnement. Et donc, l'essentiel du cœur de ma thèse a été d'essayer de mettre en place des situations expérimentales qui permettait d'orienter l'animal plutôt vers une réponse behavioriste, associative, ou plutôt vers l'utilisation d'une représentation. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. Et à l'issue de ma thèse, j'ai effectivement conclu qu'il y avait différents types de processus qui pouvaient être mis en œuvre par l'animal et que tout dépendait finalement de la pertinence de ces processus, de la disponibilité des informations dans l'environnement et de la facilité avec laquelle l'animal pouvait les utiliser en utilisant l'un ou l'autre type de processus. Alors à l'issue de ma thèse, toujours dans cette perspective d'essayer de mieux comprendre la fabrication du comportement, donc j'avais une formation de biologiste, mais j'ai voulu approfondir ma formation de biologiste et donc je suis parti faire un post-doctorat aux États-Unis et au Canada dans des équipes qui travaillaient à l'époque sur différentes structures du cerveau et en particulier sur une structure qui avait et a encore le vent en poupe pour expliquer comment l'animal peut se représenter l'espace, à savoir l'hippocampe. Donc j'ai passé 2 ans là-bas avec des chercheurs qui étaient, bon, somme toute, compétents dans leur domaine, mais qui n'étaient pas non plus sur le devant de la scène, bien que tous les deux étaient influencés par une découverte qui avait été faite 15 ans auparavant, à savoir la découverte des cellules de Lieu par John O'Keefe. Et ce John O'Keefe, c'est celui qui a, au moins sur le plan spirituel et conceptuel, inspiré mon cheminement ultérieur. L'idée de base était d'arriver à comprendre comment une structure particulière, l'hippocampe, pouvait façonner les comportements reposant sur une représentation de l'environnement. Alors là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont beaucoup compté dans ma carrière, et il y en a deux. En fait, il y a John O'Keefe lui-même, que j'ai rencontré en 1988 à Toronto.
Et tu as eu l'occasion de travailler avec lui, ou tu l'as rencontré à un congrès ou...
Alors voilà, je l'ai rencontré à un congrès. En fait, je l'ai rencontré simultanément avec une autre personne qui a été vraiment déterminante, qui est Bob Mueller. J'ai présenté un poster au colloque de la Société des neurosciences américaines, Society for Neuroscience, à Toronto. Et je vois deux chercheurs, dont l'un, je connaissais un peu la tête parce que j'avais vu sa photo auparavant, il s'agissait de John O'Keefe, et l'autre, je ne connaissais pas, Bob Mueller, et j'étais très impressionné, évidemment, j'étais jeune chercheur, hein, j'avais 32 ans, et très impressionné de voir John O'Keefe arriver, et surtout me présenter son meilleur ami, Bob Mueller, John O'Keefe travaillant à Londres, Bob Mueller à New York. Et là, est venue une discussion sur le poster que je présentais, et à l'issue de cette discussion, ils m'ont dit, écoutez, maintenant, il faut absolument retirer l'activité des cellules de Lieu dans cette situation comportementale. Alors, la situation comportementale, c'est celle que j'avais développée 2 ou 3 ans auparavant, et qui consistait à observer le comportement exploratoire de l'animal pour en inférer les processus qu'il avait utilisés pour fabriquer une représentation de son environnement. Et donc, je suis tombé 100% d'accord avec eux, mais simplement, je leur ai dit, mais bon, oui, mais chez nous, on ne fait pas l'électrophysiologie, on utilise d'autres techniques, mais pas, on fait des inactivations réversibles, on fait des lésions, mais pas d'électrophysiologie. Et donc, pour l'instant, j'ai ni les capacités, ni les moyens financiers pour monter une équipe ou un projet sur cette base-là. Et il se trouve que... la discussion s'achève là-dessus, mais Bob Mueller vient faire un séjour à Marseille, je pense un séjour qui était organisé à l'occasion d'un grand colloque organisé par Jacques Paillard sur la représentation d'espace. Et Bob Mueller avait une conférence à faire dans ce colloque, et il fait une conférence brillante. Et à la fin de sa conférence, enfin plutôt en marge de la conférence, il veut me parler. Et d'abord, le courant passait très très bien entre nous deux. Il veut me parler et il me dit, écoute, je pense qu'on peut trouver un arrangement pour que tu puisses monter ton propre poste d'électrophysiologiste, que je voulais faire, pour pouvoir enregistrer ces fameuses cellules de lieu de l'hippocampe dans la tâche d'exploration que j'avais mise au point. Et c'est comme ça que s'est développée cette collaboration. Bob m'a aidé à monter ce poste. Il a
fait À Marseille.
Marseille. J'ai fait le déplacement plusieurs fois dans son laboratoire à New York pour apprendre les techniques de base. Je restais une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines. Je revenais et j'appliquais ces techniques à Marseille, après avoir acquis évidemment le matériel et grâce à l'aide et au soutien de Catherine Tinus-Blanc. Il faut bien le dire, hein, sans elle, j'aurais jamais pu avoir le soutien financier qu'il me fallait pour pouvoir monter ça. Parce que même si ce n'était pas des sommes énormes, il s'agissait d'une époque où les crédits récurrents ne suffisaient pas pour acquérir des équipements de ce type-là.
C'était en quelle année, donc ?
Ça, c'était en 91. En 91, je commence à installer ce système. En 92, il est fonctionnel. Je continuais évidemment à travailler avec Bob pour différents aspects, qui étaient à la fois des aspects d'électrophysiologie, mais aussi beaucoup des aspects liés au traitement des données. Parce qu'à l'époque, la particularité du système que j'avais installé et qui était complètement semblable au système installé à New York dans le laboratoire de Bob Mueller, c'était que le recueil des informations était informatisé. Contrairement à l'époque antérieure de O'Keeffe, dans les années 70 ou 80, où là, c'était papier-crayon, on regardait des oscilloscopes, on regardait l'activité et on notait l'animal fait ceci, l'animal fait cela. Et donc, c'était un des grands progrès qui avait été apporté à la discipline par Bob Mueller, c'était de mettre en place quelque chose qui était rigoureux, qui permettait d'analyser le signal en fonction des paramètres comportementaux recueillis automatiquement par le système. Mais il fallait aussi pouvoir traiter les données. Et à l'époque, j'avais évidemment aucune compétence en informatique. Donc j'ai commencé à développer, à suivre des cours dans un langage informatique précis, un langage de programmation, avec le soutien de Bob qui m'expliquait exactement comment les choses marchaient, parce que lui, il avait développé depuis longtemps cette capacité. Et donc en 1994, je publie avec Bob et Catherine un papier. Alors, est-ce que c'est le premier papier en France portant sur les cellules de lieu ? J'en sais rien. En tout cas, c'était un des tout premiers papiers où on rapportait que ce qu'on peut trouver dans l'hippocampe dorsale, qui était donc ce qu'avait trouvé John O'Keeffe, à savoir des cellules de lieu, se trouvait aussi dans l'hippocampe ventrale, même s'il y avait des différences. Donc c'était c'était un très petit papier, mais ça marquait le fait qu'on avait mis, ça y est, le pied dans... dans la maison.
Super.
Et ensuite, ben voilà, après, on a continué à développer cette collaboration. Évidemment, j'avais des étudiants. J'ai pris un peu de recul en voulant m'intéresser à d'autres structures que simplement l'hippocampe, parce qu'à l'époque, seul l'hippocampe était vraiment la cible des enregistrements électrophysiologiques, pour des raisons qui
sont... Oui, ça, c'est un petit peu l'aspect qu'on va regarder dans le deuxième point, peut-être.
D'accord.
De dynamique de la science et d'évolution des modèles. Mais,
voilà. Donc ça, c'est comment j'en suis arrivé à développer ma thématique de recherche, au final. Ça a été sous l'influence de trois ou quatre personnes. John O'Keeffe, évidemment, je l'ai revu après par la suite, mais on n'a jamais directement collaboré ensemble.